Réunion entre les mondes. Pour aborder ce thème, j'ai à cœur de préciser d'abord certains points importants. Si ce sujet peut nous paraître si opaque, c'est qu'ici notre vision est complètement inversée. Nous allons donc, pour simplifier, remettre les choses dans l'ordre. Ainsi, nous verrons en quoi consistent les réunions, qui y est convié, comment elles se déroulent et pourquoi. Afin de comprendre, il est essentiel de revenir à la post-incarnation, au monde entre les vies. La Terre est une sphère école. Il existe des milliards de sphères écoles qui accueillent des courants de vie au-delà même de notre système. Ces derniers vont passer par les lois de l'univers local et ascensionner à travers ces lois. Voilà ce qu'est une planète école. Les courants de vie viennent sur Terre, et à travers la matière et toute la densité traversée, à la suite d'un vaste parcours de densification, ils réalisent, au travers de l'expérience, l'expansion de leur conscience qui leur permettra de se réunir à lumière dont ils sont originels. C'est une sorte de défractalisation qui amène l'humain à faire l'expérience de sa déité, via les strates de sa densité. C'est comme si vous étiez des milliards et des milliards de dieux formant un grand dieu qui se décompose en lumière pour justement faire l'épreuve de cette densité et d'opérer en soi-même le retour à la conscience, le pouvoir de manifestation de la création, car la création n'a qu'un seul et unique but, la manifestation de la source même. Chaque strate par laquelle passe chaque courant de vie peut être considérée comme une couche d'oignon. C'est pour cette raison que nous avons plusieurs corps éthériques, le véhicule de matière étant le dernier véhicule dans lequel nous atterrissions en partie. Quand, au cours d'un cycle d'incarnation, nous arrivons sur une planète, que nous prenons corps dans la chair, nous sortons déjà d'une longue exode, d'un très long processus. Nous nous réveillons en tant que corps-matière et nous avons l'illusion de naître et d'être en vie, constitué de l'ensemble des paramètres de la matière, l'ensemble des paramètres de la psyché et l'ensemble des paramètres de tous les corps densifiés. Nous avons élaboré un réseau d'informations psychiques, physiques et spirituelles, et à partir de ce réseau d'informations tridimensionnelles, nous allons pouvoir apprécier la matière, le domaine des émotions, du sentiment, de la pensée et de l'être, avec cette lumière une qui nous anime, qui, en réalité, est notre être véritable. Seulement, lorsque nous nous incarnons, nous croyons que la vie terrestre est la vraie vie, parce que nous expérimentons seulement un prisme très restreint de notre réalité ultime et fondamentale. Nous nous construisons à travers ce prisme qui est pour nous la seule et unique réalité, et à partir de cette réalité, au travers de cette expérience, nous nous retrouvons régulièrement au-delà de l'opacité, derrière le voile de matière, dans ces fameuses réunions. Comprenez maintenant que la Terre est ce grand plateau de jeu destiné à, justement, fertiliser la matière dans toute sa densité, l'ensemencer de lumière et la faire éclore elle-même de cette lumière. C'est simplement une expérimentation pour le courant de vie, afin de pouvoir, par la densification et par la matière, exprimer ses qualités divines. Tous les courants de vie ne passent pas forcément par des planètes écoles, en tout cas pas dans cette densité. Il existe également une multitude de planètes écoles aux densités variables. Toute incarnation, tout courant de vie transite préalablement par un conseil planétaire. En effet, la hiérarchie de chaque planète école est parfaitement organisée. Une équipe définie est là pour veiller sur le bon déroulement de l'école. Un conseil accueille tous les êtres qui vont participer aux classes préparatoires et entrer dans l'école planétaire. Les courants de vie sont accueillis, validés, ils sont entendus et entretenus sur leur volonté et leur capacité d'apprentissage et d'ascension. Imaginez une planète ronde, appelez-la la planète matérialisée, densifiée, telle que nous la percevons. Si nous étions capables de percevoir les villes éthérées, nous verrons qu'elles sont présentes sur toutes les planètes écoles, sauf sur celles qui ont atteint un certain stade de leur évolution, où ces pôles d'accueil ne sont plus nécessaires. Sur une planète comme la nôtre, où l'humain doit toujours passer par le cycle d'incarnation, de mort et de renaissance, ces pôles permettent, entre les vies, d'accueillir les courants de vie et leur permettre de poursuivre le processus. Vous pouvez retrouver une très belle illustration d'un de ces pôles dans Nos Solars, notre demeure, le film adapté du livre du célèbre médium brésilien, Chico Xavier. Cependant, les pôles varient en fonction du taux vibratoire de chaque âme, lui-même lié à leur conscience individuelle. Ils ne sont donc pas tous identiques. Lorsque vous êtes à un courant de vie et que vous voulez entrer dans l'orbite de la Terre, vous devez systématiquement transiter par les hiérarchies planétaires. Si vous provenez d'une autre planète, vous devez passer par la hiérarchie de l'univers local, puis la hiérarchie planétaire, comme pour une entreprise. Les entreprises étant des reflets plus ou moins ajustés du modèle source originel. Si, en tant que courant de vie, vous souhaitez intégrer une planète école sous forme densifiée, vous passerez par ces pôles pour intégrer le processus. Pourquoi y a-t-il des pôles ? Chaque pôle dépend de la vibration des courants de vie. Certains sont investis dans l'accueil des humains qui ne sont pas encore au stade d'éveil, ceux qui meurent, revivent, meurent et reviennent, ceux qui n'ont pas conscience une fois incarnés qu'il y a une vie après la mort, ceux qui ignorent être plus que des êtres physiques et qui n'ont pas encore le savoir de leur nature véritable. Ainsi, de nombreux pôles de la sorte existent autour de nous. D'autres pôles accueillent des courants de vie qui ont déjà accédé à des stades de conscience plus élevés. Les courants de vie ne sont donc pas tous mélangés. Tout est parfaitement élaboré pour maintenir l'harmonie et l'équilibre des arrivées et des départs, ainsi que les enseignements délivrés entre les incarnations et pendant les incarnations. Certains êtres sont impliqués dans la rétribution et l'enseignement. Ils interviennent pour aller apporter et ensemencer certaines de leurs connaissances sur Terre. Ils ont parfois dépassé le stade de l'individualité et viennent transmettre leur savoir dans les secteurs aussi divers que l'agriculture, les sciences, la spiritualité ou tout autre domaine ou sujet. Bien que non tributaires du cycle de réincarnation, ils seront cependant soumis aux mêmes règles et seront donc introduits de la même manière. Il y a toujours des réunions avant l'incarnation, entre les incarnations, pendant l'incarnation, des réunions pour tout. L'apprentissage ne s'arrête jamais. Il est de même pour les pôles où les humains ne sont pas conscients de qui ils sont. Ne leur dis pas de but en blanc, de toute façon tu es ci ou ça. Car même à ce moment-là, le courant de vie n'est pas forcément capable de comprendre et de recevoir l'instruction entière des rouages de l'univers. Contrairement à ce que pensent certains, nous n'avons pas directement accès à la connaissance globale. Nous restons dans une certaine forme densifiée pour ensuite réintégrer l'incarnation. Cependant, en d'autres circonstances, nous pouvons faire l'expérience de l'unité. Et cela est parfaitement compréhensible. Imaginez si subitement vous étiez totalement dans cette source de vie et conscient de ce qui peut vous arriver de manière fractionnée. Eh bien, vous n'auriez plus jamais envie de revenir. Vous êtes donc une espèce de forme consciente, que nous appelons la forme morentielle. C'est pourquoi vous avez l'exacte projection de comment vous vous percevez et vous participez toujours aux réunions, en fonction de vos propres centres d'études. Tout le système mis en place dans ces pôles est là pour aider chaque courant de vie à réussir ce qu'il est en train d'entreprendre. Chaque courant de vie n'a pas forcément envie de mettre en place les mêmes projets. Certains sont là, par exemple, car ils veulent implanter sur Terre une science qu'ils ont réussi à développer sur d'autres sphères. Ils vont donc choisir de suivre tout un cycle d'incarnation sur une centaine d'années, afin de pouvoir être capables d'appréhender l'énergie de cette école et y déployer cette science-là. Sur ces plans, l'échelle de vie incarnée n'est pas perçue de la même manière qu'une fois dans la matière. Une personne pourra donc prévoir de venir développer un système ou une technologie spécifique sur plusieurs incarnations. Vous trouverez un très bon exemple de ce principe sur les mystères dévoilés de Godfrey Ray King. Vous y apprendrez que ce n'est pas la première fois que M. Ballard, qui deviendra Godfrey, travaille dans les mines et s'intéresse aux minerais et aux minéraux. Ses connaissances ont été développées au cours d'un vaste cursus d'incarnations, dans un but défini qu'il souhaitait développer. Croyez-moi, cette configuration où des êtres entreprennent des missions qui se déroulent sur de nombreuses vies est largement plus fréquente que nous le pensons. Beaucoup croient qu'il s'incarne et réalise directement une magnifique mission, à la manière d'Avatar, mais en réalité, beaucoup de courants porteurs d'un projet destiné à aider la Terre réalisent de multiples incarnations pour le mener à son terme. C'est un peu comme lorsque vous êtes étudiant et que vous suivez le programme Erasmus. Tiens, ils ne font pas encore cela sur Terre, je vais entamer un cycle spécifique afin de pouvoir élaborer la mise en place, la mise en service et enfin l'accès à cette technologie que je souhaite apporter. Énormément de projets sont en cours d'élaboration et des réunions sont mises en place pour assurer leur bon déroulement. Cependant, vous ne venez pas aux réunions uniquement pour vos projets personnels. Vous êtes entouré de toute une équipe. Premièrement, le projet est validé par la hiérarchie de notre système et ensuite par la hiérarchie en charge de la grande école planétaire. En tant que courant de vie, vous venez et vous dites « Voilà, j'aimerais bien établir tel plan pour l'humanité. » Le conseil connaît parfaitement les humains de la Terre et les difficultés que vous pourrez potentiellement rencontrer. Et il en va ainsi pour apporter tous les éléments nécessaires pour que vous puissiez vraiment mener à bien ce qui a été validé en amont. Toute cette entreprise est basée sur l'entraide, la cohérence, la logique fondamentale de l'unité. Il existe donc un certain nombre d'organisations de cet ordre. Imaginez maintenant que vous faites partie de ceux qui sont venus pour dévoiler et ensemencer les consciences de vos frères et sœurs humains, à un moment où la Terre est vraiment en pleine ascension, en plein changement. J'ai envie de faire partie de ceux qui vont venir contribuer à ce changement. Le conseil va alors écouter ce que vous souhaitez réellement venir implanter, apporter dans l'école. Les choses vont être organisées, planifiées. Les grandes instances planétaires connaissent exactement les plans. D'ailleurs, ce sont elles qui décident, même si elles sont elles-mêmes soumises à la hiérarchie du Soleil, celui de notre système local, celui que nous voyons tous les jours. Cette hiérarchie du Soleil, administrée par Hélios et Vesta, est elle-même soumise à la hiérarchie du Grand Soleil central. Pour simplifier, Hélios et Vesta vont dire au Conseil planétaire « Nous vous donnons tant de quantité de lumière, tant d'énergie, de moyens pour pouvoir mener à bien certains objectifs. » À partir de là, le Conseil planétaire va donner son accord en fonction de la quantité de moyens alloués par la régence du Soleil. Pourquoi une quantité ? Le maintien de la planète en orbite exige une dose d'énergie allouée qui sert au maintien du flux d'harmonie de la sphère. Ce sont eux aussi qui décident de la quantité de courants de vie qui peuvent être accueillis sur une sphère, et qui décident du nombre de naissances par révolution solaire par exemple. Avez-vous réalisé qu'il y a sensiblement le même nombre de femmes et d'hommes sur Terre ? En réalité, ils décident de tout, car tout cela est une organisation beaucoup moins anarchique de ce qui paraît ici. Sur Terre, nous avons l'impression que tout est accident et hasard. Or, absolument rien n'est dû au hasard. C'est encore une fois parce que nous voyons les choses à l'envers. Par exemple, le Grand Conseil planétaire décide de développer en Occident la spiritualité modernisée. Le but de la dernière décennie était effectivement de dépoussiérer la spiritualité et redonner un souffle à l'Occident, via une spiritualité en dehors des dogmes, car les humains, conscients des biais et des travers de la religion, avaient perdu confiance. Ainsi, il a été décidé d'envoyer un nombre spécifique de courants de vie en Occident pour apporter un certain message et des énergies particulières. De plus, de nombreux courants de vie portant en eux cette énergie de foi ancrée avaient été très efficaces dans les Indes, dans le Grand Orient, mais cette foi pouvait être qualifiée de léthargique. En effet, ceux qui portent cette teinte ne sont pas des gens qui vont forcément se destiner à créer. Par conséquent, un grand nombre de ces courants vont être placés en Occident. Ainsi, ils vont pouvoir faire émerger toute cette paix intérieure et offrir à certains pays un autre axe d'évolution et une autre couleur. Voyez que des vastes organisations existent à grande échelle, avec un énorme cahier des charges où nous savons exactement quel mouvement, quel pays influence quoi, quel genre de ville impacte quel type d'énergie, quel genre de culture. Nous ne venons pas à l'aveuglette. Imaginez donc le nombre de réunions nécessaires à cette grande orchestration. Entre toutes les incarnations, toute cette machinerie se met en place à divers niveaux. Cela concerne les gens venus comme étudiants dans un but précis pour mener à bien un projet, et c'est une des possibilités. Il y a aussi ces courants de vie qui sont là juste imbriqués dans l'école, en tant qu'humains, en train d'apprendre, qui ne sont pas au courant de qui ils sont. Ce n'est pas grave, car ce cycle d'incarnation a pour but de leur enseigner qui ils sont. Tous les courants de vie, encore ignorants de leur nature véritable, sont aussi pris en charge entre les vies. Ils vont généralement se réincarner un peu plus rapidement. Par exemple, on va leur dire « À l'âge de 24 ans, tu auras une fille et ce sera celle qui était ta grand-mère, parce qu'ensemble, vous allez développer cette harmonie mutuelle par la suite du processus. Elle va pouvoir t'apporter ceci et toi tu pourras lui apporter cela. Cela vous permettra de déployer cet axe-là. » Voyez combien tout cela demande du travail derrière le rideau. Et cela ne s'arrête pas là. Par exemple, Julie accueille à 24 ans Anna, qui était sa grand-mère. Une fois incarnée, on ne va pas la laisser dans le brouillard. L'aide se poursuit quotidiennement. Ce n'est pas parce que nous sommes incarnés que nous avons coupé tous les liens avec toutes ces sphères. C'est pour cela que le soleil existe. Même si nous avons l'impression d'être dans un sommeil paradoxal, avec des rêves bizarres, cela n'a rien à voir. Des entités, dans toutes les strates, sont toujours là, pour jouer avec les énergies. Ils sont capables d'organiser l'énergie dans votre psyché, de manière à ce que vous puissiez continuer à travailler dans les projets pour lesquels vous vous êtes incarné. Et quand vous vous réveillez, vous pouvez être conscient de ce rêve, mais c'est un autre sujet. J'évoque ici ce lien avec les réunions, avec les sphères qui n'est jamais coupée. Même si Julie passe 24 ans sans Anna, en réalité, quand elle va dormir, et même en songe éveillé, elle va la contacter, elle va la retrouver un certain nombre de fois. Tout sera fait pour que les choses restent dans le plan initial. Dans vos réunions, vous ne rencontrerez pas seulement ceux que vous allez accueillir, mais ainsi des personnes avec lesquelles vous serez très prochainement en contact. Par exemple Gino, dont vous ferez connaissance dans 5 ans environ, lors d'une croisière. Quand cela se produira, vous serez surpris du feeling immédiat avec lui. Bien sûr que vous le connaissez déjà, et ce n'est pas toujours via d'autres vies. Ici, vous êtes tellement relié à l'envers du décor, et même si cela se produit totalement inconsciemment, toutes ces réunions vous permettent de garder une empreinte en vous et vous alerter au quotidien. Vous aurez par exemple l'impression de connaître cette personne, vous porterez instinctivement votre attention sur celle-ci ou cela. C'est une organisation très vaste et minutieuse sous bien des aspects. Parfois, quand nous ne nous souvenons pas d'une réunion, mais que nous sommes certains d'y être allés, nous pouvons avoir l'impression d'être un peu floués. Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi il est quelquefois fondamental de ne pas se rappeler. Si vous vous souvenez d'une réunion, cela démontre assurément un certain stade de conscience. Mais imaginez une personne incrédule qui se réveille avec en mémoire toutes les informations d'une réunion. Cela pourrait briser sa vie. Prenez l'exemple de Roger, qui se lève tous les matins, prend son café, va travailler, qui est droit dans sa vie, croit qu'après la mort il n'y a rien, s'il participe à un séminaire de son après-vie, de comment cela pourrait se dérouler pour lui, qu'il revient avec ses informations, cela pourrait provoquer un choc terrible dans sa conscience humaine, et il pourrait lui arriver les pires des choses. Au niveau des émotions, il lui serait impossible de faire face. D'ailleurs, ceux qui n'ont pas dépassé le stade de la personnalité n'en ont rien à faire de participer à des réunions avec d'autres personnes sur d'autres plans de conscience. Ce qui leur importe, c'est de savoir si leur patron va bien vouloir leur accorder un week-end, si leurs enfants vont être dans la classe avec leur ami l'année prochaine. Votre niveau de conscience détermine finalement quelle qualité de vie vous menez et quelles missions sont les vôtres. Certains ne sont pas là pour se souvenir de qui ils sont. Il serait donc inutile de leur donner un aperçu de certaines réunions concernant des aspects futurs de leur apprentissage. Et comme nous le disions précédemment, ce serait complètement contre-productif. Il est donc très important de comprendre qu'à un certain stade, certaines informations ne peuvent être divulguées, au risque de biaiser toute une vie. Par contre, le souvenir pour certains de participer à ces réunions peut permettre de se rappeler que vous avez un pied dans les deux mondes, et de ne pas oublier qu'ils ne font qu'un. Vous n'êtes jamais seul ici. Vous retournez toujours aux tables des réunions pour continuer le processus. Ce serait une grande ignorance que de penser qu'une fois que vous êtes incarné, il ne se passe plus rien. Vous essayez par exemple de parler à vos guides, mais vous ne les entendez pas. Ce n'est pas du tout le cas. Les liens sont permanents, nous sommes sans cesse briefés. Certains, certes, vous ignorez que vous ne savez pas encore, mais en réalité, au fond de vous, vous avez déjà été informé. Ce souvenir d'une réunion à laquelle nous avons participé est donc un cadeau. Une autorisation pour que l'être reçoive une validation témoignant de son appartenance à un processus beaucoup plus vaste. Nous nous sentons intégrés dans une équipe. Nous savons être ici pour un vrai travail, au-delà de notre propre personne individuelle. Pour ceux d'entre nous qui reviennent avec des connaissances et des savoirs, ce sont simplement des validations pour ancrer les choses en nous, pour justement sans cesse remettre du sens à notre expérience. Tout cela permet de comprendre que nous voyons les choses complètement à l'envers. C'est une fois ici que nous devons faire ces expériences-là dans la matière. Et le processus est communiqué partiellement à l'intérieur parce qu'en réalité, c'est que nous allons le vivre. Voici un autre point extrêmement important que j'ai à cœur de vous partager. Votre conscience, qui est elle ici, a tendance à se mentaliser. Récemment, j'ai participé à une réunion où tout était limpide, où j'ai saisi profondément dans ma conscience tout ce qui se tramait, mais une fois revenu ici, Lulu a réembarqué ses corps émotionnels, mentaux et physiques. L'information que nous gardons, lorsqu'elle est mentalisée, devient distordue. Vous-même, vous commencez à questionner la justesse des propos que vous avez entendus. Il est impossible de ramener des informations d'un certain plan dans le mental sans le pervertir ou le fausser. Certaines pourraient même paralyser votre vie. Voici un exemple. Imaginez que Flo doive suivre des cours de mandarin dans 3 mois. Cela va ouvrir des choses pour la suite du processus. On va lui faire rencontrer le courant de vie adéquat, qui correspond à une 21e incarnation où il doit récupérer justement une part d'énergie liée à cette personne. Voilà tout ce qu'il se trouve derrière. Mais si Flo se réveille demain en ayant l'information que dans 3 mois, il devra apprendre le mandarin, qu'il rencontrera une femme, il va d'abord se dire qu'il n'a pas du tout envie de s'initier à cette langue. Il va se demander où il va bien pouvoir rencontrer cette personne, à quoi elle ressemblera et comment il va la reconnaître. Si le mental commence à prédéfinir ces informations, c'est raté. Dans ce cas-là, le plan échoue, car Flo ne va pas écouter sa guidance, son envie profonde d'aller de fil en aiguille étudier cette langue et rencontrer cette personne. Tout est gâché, car nous ne vivons pas dans la même dimension, nous n'avons pas encore accès à des plans de conscience élargis. Sur le plan de la conscience humaine, nous devons absolument ressentir les choses pour pouvoir les expérimenter et être guidés. Nous disons souvent que la nuit porte conseil. Je vous jure que rien n'est plus vrai. Si nous savions tout cela, nous aurions beaucoup moins peur de l'avenir, de ne pas être aidés ou soutenus, car rien n'est dû au hasard. C'est notre opacité, notre grande ignorance qui nous freine. Rien n'est accidentel. Avec cette connaissance, nous aurions moins de résistance aux événements vécus, à ce que nous comprenons ou non, et nous ferions beaucoup moins d'erreurs. Ici, si vous avez l'impression que rien ne fait sens, que tout est hasard, que vous ne savez rien et que vous êtes livré à vous-même, si vous ne remettez pas l'église au milieu du village, vous ne comprendrez pas que vous êtes assisté au travers d'une vaste expérience dans laquelle tous vos congénères participent également. Si nous étions tous au courant de cela, nous ne pourrions pas, par exemple, plus nous entretuer. En saisissant tout cela, nous nous rendons compte de l'évidence de la bêtise humaine, se tirer dans les pattes, entrer en compétition, se croire supérieur à l'un ou à l'autre, cette hérésie est inhérente à l'organisation que nous avons des sphères et de la façon dont tout s'organise. Cette ignorance provient d'un manque d'envie de savoir. Je suis certaine que les informations que je vous délivre ont déjà été données. Par exemple, Chico Xavier a écrit 16 livres. Certes, il parlait principalement de la vie après la mort, mais parce que c'était le moment pour les gens de le comprendre. Pour ceux qui ont fait des NDE, expériences de mort imminente, c'est autre chose. Cela s'est produit car les conseils planétaires ont accepté de choisir des volontaires qui vivraient des NDE une fois incarnés, afin de pouvoir être capable, le moment venu, de venir témoigner de leur expérience et d'expliquer ce qui se trouve derrière le voile. Cela fait partie intégrante de tout le processus du grand projet mené par certains étudiants. Une personne ferait ainsi partie de l'équipe qui fait des NDE. Elle la vivra à 18 ans, mais 30 ans lui seront nécessaires pour diffuser ce témoignage, lorsque les aides seront davantage prêts à comprendre ce phénomène. Aujourd'hui, grâce à cette conjoncture et ce merveilleux travail de cohésion, nous avons des documentaires sur ce thème. Tout cela fait partie des réunions et de tout ce que nous venons faire pour apporter les témoignages de la lumière et ainsi éclairer la Terre. Comment expliquer ceux qui mettent en place des projets destructeurs? C'est une question très importante dans l'équation. Contrairement à ce que nous pensons, les gens ne mettent pas en place des projets destructeurs. En réalité, nous sommes en présence d'une énergie de destruction, l'énergie du grand tyran. Dans divers partages, j'ai déjà évoqué le tyran intérieur. Il est très bien formulé dans « Ami ». Il existe une énergie tyrannique, une énergie de la non-lumière, c'est-à-dire tout ce qui freine et s'oppose à la lumière. C'est exactement la même image lorsque je vous dis qu'il n'existe qu'un seul courant dans une rivière. Quand tu rebrousses le courant, tu crées un contre-courant. Voilà ce qu'est la non-lumière. C'est une énergie d'opposition. Celle-ci se sert des êtres pour exister, pour perdurer. Tu vois la colère dans la pièce ? Si la colère ne vient pas à moi, elle n'a aucun pouvoir. Si maintenant cette énergie me pénètre et que je suis totalement imbibé, je peux détruire toute la pièce. Cette énergie de destruction a besoin d'être incarnée. Elle a besoin de pantins pour pouvoir nuire, pour pouvoir exister. C'est une énergie de destruction qui est là depuis très longtemps, depuis la rébellion de Lucifer. Dans le livre d'Urantia, un passage complet explique très bien cela. Cela avait déjà commencé au milieu du règne de l'Atlantide. Ces courants destructeurs étaient déjà présents. Ils se servent de l'humain, l'emprisonnent et le dépossèdent de sa propre lumière en lui faisant croire qu'il a des intérêts personnels à le servir. Tous les êtres qui sont les outils du malin, de la force sombre, sont en fait eux-mêmes des victimes. Ils croient ce que leur bourreau leur fait miroiter. Les promesses du diable sont magnifiques et malheureusement, ces personnes sont les premières proies, car les forces destructrices ne respectent rien ni personne. La servir ne vous sert pas. La force destructrice n'est pas là pour vous dire la vérité, elle est là pour vous nuire. Ces plans ne sont pas issus de strates supérieures. Ces forces existent encore aujourd'hui car des pantins les acceptent encore sur cette planète école. Certains êtres humains sont manipulés et même brisés par cette force toute leur vie. Aujourd'hui, beaucoup de ces manigances sont dévoilées. Mais comme je le mentionnais, cette force n'a d'emprise que parce que le monde s'est opacifié et que l'individu la laisse déposséder de sa propre lumière. De la même manière, vous vous privez de votre propre lumière lorsque la colère ou la vengeance vous utilise pour faire du mal ou nuire. Quand, adulte, vous éprouvez une insécurité et que la fausse lumière vous promet des chimères, en réalité, vous êtes en train de vous nuire. Il y a une emprise sur vous. La Terre est une planète foyer du tyran, car les êtres ne savent pas qu'ils sont Dieu. Si vous regardez les événements qui se sont produits dans l'histoire assez récente, vous remarquerez que les humains, et principalement les occidentaux, se sont éloignés de toute forme de croyance envers Dieu. On leur a fait croire que c'était des inepties et que seules les sciences existaient. Or, la science n'est que l'observation de la grandeur de Dieu. Plus tard, nous réaliserons que tout cela est absurde et cela nous paraîtra être un ancien chapitre de notre processus collectif. Un jour, ma fille m'a résumé l'histoire de notre planète de façon magistrale. Elle m'a dit « Tu sais, maman, avant le tyran était sur une autre planète, et dans l'autre planète, ils l'ont éjecté, et depuis, ils vivent très bien dans la lumière. Maintenant, le tyran est venu chez nous. Il est à l'intérieur de nous. Il dit qu'on est nul, et que nous n'y arriverons pas. C'est lui qui ne veut pas de notre lumière. » Ce tyran intérieur est cette force d'opposition en nous, sacralisée par des croyances totalement erronées, par cette société complètement étouffée et parsemée de propos cachés et détournés. Ce tyran est cette force de non-lumière qui, quelque part, a été aussi amenée et soutenue par les humains eux-mêmes. J'ai dit à ma fille, « Il faut que nous aussi, nous poussions le tyran dehors, que nous l'expulsions de notre planète. » Elle m'a répondu, « De toute façon, maman, on peut expulser le tyran de notre planète, c'est simple. Quand le tyran te parle à l'intérieur, tu lui dis, « Je m'en fiche, je ne t'écoute pas. J'en ai rien à faire de ce que tu me dis. » Si tu te mets pas dans tes états tyranniques, dans les états hors de ta lumière, le tyran ne pourra aller dans personne. Quand il ne peut être dans personne, il ne peut pas exister. Un jour, le tyran quittera la planète et tous les gens auront les yeux brillants de lumière. » C'est tellement bien résumé. Dans ce courant actuel spirituel qui se rapproche dangereusement de la bien-pensance, certains êtres prétendent que c'est très bien d'être en colère, qu'il faut vivre ses émotions. Il faut se rendre compte que notre capacité d'être qui nous sommes correspond à un équilibre entre nos émotions, nos pensées, notre psyché, notre corps matériel et ce que nous sommes en réalité. Et comme il est lui-même nourri dans l'astral, vous attirez des sensus astrales qui vont nourrir votre colère, vos remords, vos regrets, votre haine, votre jalousie. Faites attention à la bien-pensance en ce moment qui déclare qu'il faut être comme on est et assumer. C'est grave de se laisser manipuler par les forces de non-lumière. Ce n'est pas parce qu'elle vient à vous que vous devez la laisser vous utiliser. Il faut surtout se rendre compte de ce qu'elle vient chercher en vous. Et c'est votre lumière. Elle tente d'opacifier votre regard et vous éloigne de votre lumière. À travers la haine, vous ne percevez pas la beauté du monde, ni la beauté de vos frères et sœurs, vous ne percevez même pas votre nature divine, ni ne voyez la lumière en chacun et au sein de toute la création. Vous êtes tributaire de vos états d'âme, sous le prisme de votre état émotionnel et psychique. Rien n'est plus délétère que les émotions. Certes, les pensées vont vous faire ruminer, mais une émotion peut vous coucher à terre. Pourquoi les émotions forment-elles des maladies? Parce qu'elles viennent perturber l'harmonie au cœur même de nos cellules. Cette tyrannie de non-lumière revient à absorber une quantité incroyable de poison. L'assurance du bonheur collectif et de la plénitude ne peut avoir lieu que lorsque nous avons associé toutes les connaissances avec la conscience de l'existence et notre impact sur celle-ci. Nous détenons une grande responsabilité. À la simple échelle individuelle, nous sommes responsables des émanations que nous produisons et que nous laissons produire. Voici à quoi pourrait ressembler une réunion. Bernard travaille depuis 10 ans dans une entreprise qu'il n'aime pas. Il déteste son directeur, mais même s'il n'est pas du tout épanoui, il n'arrive pas à s'extirper car il craint de perdre son salaire. Il en a marre et il est proche du burn-out. Pouvez-vous nous parler du courant de vie nommé actuellement Bernard ? Oui, nous avons tenu des réunions, ça s'est adouci pendant un moment et il est reparti dans une forme d'indignation intérieure. Il n'était vraiment pas bien, jusqu'au moment où il s'est senti emprisonné et a ressenti une très forte injustice. Jusque-là, il n'a pas été capable de sortir de ses schémas, malgré que nous lui ayons suggéré d'aller voir sa grande tante plusieurs fois. Il a toujours refusé. Bernard a également fait du mal à un de ses collègues. Il s'est laissé imbiber de ses énergies de non-lumière, qui ont été largement alimentées par tous les films et les séries très sombres qu'il regarde depuis 3 mois. Il a accumulé beaucoup de ces énergies-là. Un jour, il a tout déversé sur son collègue, qui a été grièvement blessé. Voilà ce qui peut se passer concrètement sur Terre. Nous ne comprenons pas le but de l'incarnation, nous ne comprenons pas le but de la vie. Nous sommes totalement soumis à un système qui a ni queue ni tête, et dans lequel nos cris d'effroi ne peuvent être qu'étouffés à l'intérieur, car tout le monde est dans le même bateau. Bernard ne croit pas en quelque chose de plus grand. Il va continuer à rejeter la faute sur les autres, à croire son collègue fautif, à s'énerver de chaque propos de son patron, parce qu'il en est là pour le moment, mais un jour, c'est vers lui-même qu'il se retournera. Prenons un autre exemple. Cela fait plusieurs incarnations que Pierre est investi auprès des communautés. Il a le cœur sur la main, mais il rencontre beaucoup de problèmes relationnels, justement par le fait d'avoir le cœur très ouvert sur des planètes comme celle-ci. Il va devoir apprendre à doser, à faire confiance à ce qu'il ressent. D'ailleurs, une équipe a été mise en place pour l'aider. Justement, il va rencontrer Julie qui va lui proposer une série de voyages qui vont lui permettre de réaliser divers apprentissages. Voilà ce qui se passe, de l'autre côté du rideau. Ici, nous avons des suppositions, des débats sur rien ou pas grand-chose, nous avons des opinions sur du flanc, et nous croyons que ce que nous disons est important. Le nombre de chars envoyés dans les pays en guerre, le budget, sur le plateau de jeu, tout ce qu'il y a d'important, c'est de rendre conscient l'humain de ce qu'il est. De cette manière, vous réalisez que les règles de jeu changent instantanément. C'est l'inconscience généralisée qui rend les gens modulables, friables, et qui font qu'ils sont en mesure de se retourner les uns contre les autres. Maintenant, laissez-moi vous décrire à quoi ressemblent les réunions. Elles peuvent prendre différents aspects. Précisons d'abord qu'elles ont lieu dans des départements, des édifices destinés à des aspects spécifiques. Nous avons par exemple des réunions post-incarnation, des réunions de préparation de projet où l'on fait partie du plan de volontaires pour amener une contribution spécifique. Il existe aussi des réunions interplanétaires pour les organisations hiérarchiques. En effet, la hiérarchie n'est pas toujours la même, elle évolue également. Par exemple, Sanat Kumara est reparti sur Vénus, sa planète d'origine, et il a été remplacé. Une réunion va dépendre surtout de l'octave sur laquelle elle est tenue et de quel courant de vie la compose. Plus l'octave est proche de la matière, plus le courant de vie est inexpérimenté, hors cas spécifique, et plus les réunions vont ressembler à celles que nous connaissons habituellement ici, avec un officiant et des personnes qui écoutent. Cela se passe néanmoins dans une grande bienveillance. C'est plus une confraternité qu'une réunion de travail, même si néanmoins sérieux, cadré et bien mené. Le but étant toujours d'être dans la meilleure cohésion possible pour que l'affaire soumise soit orchestrée au mieux. Chaque intervenant a un rôle particulier. Bien souvent, une personne officie et une autre l'assiste. Si cela concerne une seule personne, des intervenants qui la connaissent pourront être présentes si nécessaire. Les réunions de projet comportent de nombreuses étapes et elles ne se tiennent pas toujours dans les mêmes lieux. Chaque département est spécifique au projet que vous voulez développer et au sein de ces projets, il y a plusieurs pôles de développement. Par exemple, ce qui concerne une avancée scientifique, l'ouverture du cœur sur la planète, l'ensemble des consciences. Il existe donc de nombreux pôles pour les étudiants qui viennent amener quelque chose sur la base du volontariat. Les réunions sont très diverses. Vous avez des réunions interprojets où toute l'équipe du projet se réunit pour répartir les rôles. Celle aussi où vous êtes personnellement convié devant le conseil afin de présenter votre projet. Vous pouvez également être invité à des réunions de pure validation qui, elles, sont très courtes. Plus vous allez dans les validations hiérarchiques de très haute sphère, et plus ce sera plus simple et intense, car vous êtes simplement là pour recevoir la bénédiction de ces instances suprêmes. C'est difficile à expliquer avec des mots. C'est comme si, à ce moment-là, vous ressentiez une enveloppe d'énergie allouée pour réaliser votre projet. Évidemment, nous parlons ici en termes de vibration. Les êtres ne s'incarnent pas tous sur la même planète. C'est pourquoi il existe aussi des réunions interplanétaires. Ils peuvent être réalisés soit dans les pôles de la planète accueillante, soit dans ceux d'autres planètes. En outre, il y a aussi des réunions spécifiques liées par exemple à toutes les ingénieries de surveillance. Celles-ci me font penser à la série The Orville. Comme je le mentionnais précédemment, des pôles éthérés sont postés autour de la Terre, mais il existe aussi une surveillance permanente d'une ingénierie extrêmement évoluée. Cette flotte procède à toutes les observations éthériques, magnétiques, spécifiques au niveau de la Terre-matière, des êtres humains, des avancements. Des réunions ont donc également lieu pour des structures. D'ailleurs, certains humains incarnés servent ces flottes-là et leur donnent des informations. Il peut vous arriver de participer à des réunions dans des vaisseaux. À ce moment-là, soit ce sont des réunions avec des êtres d'autres natures, soit des réunions qui ont lieu dans le cadre de l'action de surveillance. Vous êtes alors un des éléments qui va devoir se rendre à un endroit précis, à un instant T, ou partager une expérience au sein d'une mission précise. Si je vous expliquais tout ce que nous faisons en permanence, vous vous direz que nous travaillons tout le temps. Imaginez par exemple Flo, Laetitia et Audrey, qui ont été appelés à aller à la dune du Pilat. Ce n'est pas uniquement pour y passer un bon moment et boire un mojito. C'est beaucoup plus intéressant que cela. Seulement, sur ce plan encore très opaque, vous faites les choses très inconsciemment. La vérité est que Laetitia est envoyée là-bas. C'est qu'à ce moment-là, elle porte une énergie qui va être utile pour elle, pour d'autres et pour l'endroit où elle se rend. Et vous savez tout cela inconsciemment, parce que justement vous participez aux réunions. Faisons-nous des réunions dès notre naissance. De 0 à 7 ans, nous sommes encore dans ce que nous appelons la migration de l'âme. Celle-ci est dans un processus important, où elle doit atterrir en douceur. C'est une période spéciale, où elle est toujours entourée. Elle est justement encore très présente de l'autre côté. Mais ici, nous avons tendance à violenter les enfants. On rationalise tout de suite leur cerveau. Les faire arriver dans des structures rigides aussi rapidement est abominable pour eux, surtout des organisations qui aplatissent la migration de l'âme et ne la font pas atterrir en douceur. Mais cela est un autre sujet. Dans cette tranche d'âge, l'âme fait encore partie de tout ce qui est inhérent à son processus de migration. Elle est accompagnée, est absolument aidée, mais elle n'est pas encore totalement investie dans ce qu'elle doit accomplir. C'est un peu différent. Néanmoins, elle est en lien permanent avec l'autre côté. Personnellement, je me souviens très bien de mes réunions lorsque j'étais plus jeune. Je trouvais cela normal de revenir à la maison, de me souvenir de tout ce que l'on avait pu faire de l'autre côté, même si je ne pouvais pas vraiment l'expliquer. Je nourrissais d'ailleurs beaucoup d'impatience. Je savais que certaines choses allaient arriver dans ma vie, et j'avais hâte. C'est comme si je me souvenais de ce qui allait se passer, et il ne cessait de me répéter « Patience, patience, ça va arriver, mais ce n'est pas encore tout de suite. » Nous sommes tous, chaque courant de vie, la source qui s'est individualisée, et elle a justement besoin de se manifester pour créer. Les planètes ne se matérialisent pas comme ça par magie. La source a besoin de devenir un mouvement qui va manifester des frictions, et celles-ci vont se transformer en matière, en densité. À partir de ces frictions, de cette opposition, des formes vont se créer et l'intelligence va développer les sphères, l'agencement des sphères des courants de vie. C'est extrêmement vaste et complexe et tout aussi fascinant. Cette source est tellement auto-intelligente qu'elle peut alimenter l'ensemble de la création sans jamais se perdre. Elle est au gouvernail de tout. C'est cela qui est fantastique. Au départ, pour expliquer ces principes aux humains, on a parlé de Dieu et on lui a suggéré de se relier à lui, à l'intérieur de soi, parce que Dieu a créé la terre et a tout créé. Ce que je suis en train de vous expliquer dans cet ouvrage est impossible à transmettre à quelqu'un qui n'a jamais vu un avion dans le ciel. Un certain stade de conscience et de développement est nécessaire pour pouvoir imaginer ce que je suis en train de vous expliquer. Si nous prenons l'exemple du mystère de la danse du soleil de Fatima, nous voyons qu'à l'époque, il était quasiment impossible d'aborder les questions des ovnis dans cette région de la planète. Cette danse spéciale avait justement eu lieu de façon à ce que les gens puissent réincarner cette foi en eux et qu'ils comprennent qu'ils étaient surveillés par une organisation divine. Mais c'était encore trop prématuré pour l'expliquer dans les détails. Donc on leur a dit « Voyez, il y a un signe de Dieu ». On essaie toujours de simplifier les choses pour réintégrer de la conscience à la mesure de ce que l'humain est prêt à accepter. Qu'en est-il des chariots de feu, ceux qui sont présents dans la Bible? Ce sont eux aussi des vaisseaux. Mais à cette époque, personne n'avait jamais vu un avion, ni de construction de l'homme dans le ciel depuis les civilisations très anciennes, et ils ne pouvaient pas se l'imaginer. Comment le nommer? C'est la même chose pour le buisson ardent, Dieu y étant associé au feu. Il est essentiel de toujours replacer les choses dans leur contexte. Dorénavant, nous sommes arrivés à un stade où nous pouvons, par conséquent, comprendre certains de ces concepts-là. Rien ni personne ne peut vous empêcher d'aller dans les réunions. Ici, sur Terre, nous avons l'impression d'être victimes de tout, partout, mais je vous assure, vous êtes tout le temps en réunion. Personne ne peut vous empêcher d'y participer. Rien ne peut vous empêcher de croire et de connaître la vérité. On se cache les choses, mais personne ne peut vous empêcher d'être le courant de vie que vous êtes. Tout le monde y participe, même ceux qui ne le savent pas. Il n'existe aucun être humain sur la planète qui ne participe pas à une réunion. Si vous entendez quelqu'un qui prétend être une personne spéciale parce qu'elle participe à des réunions supercosmiques, c'est qu'elle n'a pas encore conscience qu'elle y est entourée de ses frères et sœurs. Tout le monde est convié aux réunions. Certes, pas tous les types de réunions, et la bonne raison est que le jeu est ici. Les réunions ont lieu de l'autre côté pour que l'expérience puisse justement porter ses fruits. Nous sommes tous en réunion durant la nuit, mais pas seulement. Ils peuvent aussi avoir lieu pendant les siestes et les micro-absences. Par exemple, vous êtes au bureau, dans une sorte d'arrêt sur image, et vous vous dites « Ah, déjà 20 minutes se sont écoulées. C'est drôle, je n'ai pas vu le temps passer. » Dans ce cas-là, il peut effectivement s'agir d'une réunion qui a duré 4 heures sur un autre plan. La notion du temps n'est absolument pas la même. Vous pouvez donc participer à des réunions en pleine journée. Il y en a d'ailleurs beaucoup. Y a-t-il des réunions toutes les nuits? Oui, toutes les nuits, tout le temps, mais cela ne signifie pas que vous participez à la totalité d'entre elles. Certaines réunions sont spécifiques au travail des consciences. En ce moment, beaucoup de réunions se déroulent à propos des événements à venir. Énormément de réunions préparatoires ont actuellement lieu sur le travail des âmes concernant l'accueil des événements à venir, le soutien des personnes, l'aide et l'entraide, et nos missions respectives. Gardez continuellement à l'esprit que vous êtes toujours relié, comme un cordon ombilical, et que votre vous n'est pas uniquement le personnage qui est ici. En vrai, vous n'êtes pas attaché en totalité à ici. C'est plutôt quand vous vous réveillez le matin qu'il y a un détachement et que du coup vous percevez les choses à travers un prisme très restreint. Vous avez enfilé un costume de terrien avec des binocles dans lequel vous ne voyez pas la grande vérité. Pourquoi la source a-t-elle besoin de mouvement? Ne peut-elle pas rester en paix et donc éviter les incarnations qui nous sont difficiles puisqu'elle est déjà tout? Ce n'est pas ainsi qu'il faut voir les choses. La source n'est pas là pour faire souffrir les êtres, elle est une manifestation d'elle-même pour se connaître, pour vibrer. Elle est le mouvement perpétuel. Elle n'a pas besoin de mouvement, elle est le mouvement. Elle est le verbe. Elle est une activité éternelle, permanente, omnisciente et infinie. Elle se décompose dans des strates jusqu'à l'infinité. Ce n'est pas parce qu'elle ne peut pas rester en paix dans son petit coin, paisiblement, c'est parce qu'elle n'est pas cela. Ce n'est pas une petite boule de lumière dans un coin, d'ailleurs, dans quel coin serait-elle? Quel coin existe en dehors de la source? La source est le mouvement. Elle est la vibration. Elle est l'auto-intelligence qui gère et génère tout. C'est elle qui, à l'intérieur de toi, te montre, te guide, te parle. La source ne te prend pas comme un objet, elle t'alimente de son amour intelligent. Tu peux alors te confronter à la source, à cette intelligence. Si tu ne comprends pas quel est ce que tu es, tu vas avoir l'illusion, grâce à ton libre arbitre, de développer ta propre intelligence que pourtant, tu ne fais que tirer de la source, et tu vas te faire souffrir. Ce n'est pas la source qui fait souffrir les gens et qui propose des incarnations difficiles. C'est l'opacité de la densité qui crée ces cas de figure. La souffrance n'est jamais causée par la source. De plus, en paix voudrait dire rien. Or, la source n'est pas le néant. La seule définition du néant est donnée justement par l'ignorance de l'existence. C'est comme prétendre que dans le silence, on n'entend rien. Je ne vous donnerai jamais autant d'informations que le silence. Parce que la source entière est contenue dans le silence. Mais dès que je parle, je décompose la source et le silence. C'est la décomposition qui crée les frictions. Mais ce n'est pas la source. Pourquoi la source n'est-elle pas restée dans son silence éternel? Parce que la source elle-même n'est pas que le silence. Puisque la source elle-même est l'auto-intelligence qui peut manifester les choses à travers le silence, l'étirer, créer, se multiplier et se démultiplier. Ce serait fou de ramener cela à notre toute petite conscience humaine, à notre mental d'ici. Les humains se débrouillent très bien pour créer des souffrances tout seuls, justement parce qu'ils ne comprennent pas la source. L'évolution ne se fait-elle que par la souffrance ou l'effort général? C'est une croyance tellement générale de croire que nous devons souffrir. On aime bien souffrir. Combien d'entre vous ont déjà eu un mauvais pressentiment, mais se sont dit que ça allait aller? Nous sommes toujours prévenus. Mais à certains moments, nous aimons ne pas écouter, parce que nous n'en avons tout simplement pas envie. Parfois, nous nous imposons la souffrance pour valider ce que nous avions ressenti à la base. C'est en expérimentant de plus en plus cette petite voix que nous allons progressivement lui faire davantage confiance et que nous ne pourrons plus la renier. À partir d'un certain stade, il devient très difficile de continuer à se trahir. Quand nous ne suivons plus notre sentiment profond, cela nous conduit en dehors de notre lumière. Nous nous imposons la souffrance parce que nous agissons en dehors de l'amour, en dehors de notre propre lumière. Des réunions sont-elles organisées au niveau du système solaire? Les planètes que nous connaissons tous sont majoritairement des sphères écoles. Leur niveau est justement beaucoup plus évolué que celui de la Terre. Cependant, il peut aussi y avoir des manifestations extérieures, parfois sur une phase cachée. Celles qui sont laissées à la surface, protégées des tempêtes magnétiques et des forces de l'univers, elles sont principalement dans des pôles scientifiques et de recherche. Il y a aussi des villes. Ce sont pour beaucoup des sphères écoles et leurs habitants vivent maintenant davantage à l'intérieur de la sphère. En comparaison, c'est comme si nous étions dans le cursus maternel, primaire, collège, lycée. Les terriens, qui sont dans leur cycle d'incarnation, sont inhérents à leur sphère. Dans l'entreprise de leur travail, ils sont obligés de revenir sur la Terre, mais les étudiants des sœurs qui, elles, sont des universités, jouissent d'une plus grande liberté, et se sont rattachés à cette confraternité qui les unit au sein d'une même grande école. Chaque planète dispose d'une université, mais des échanges sont possibles. La plupart d'entre elles ont des niveaux similaires. Vous pouvez, par exemple, intégrer une autre sphère qui correspond à votre niveau de développement ou au processus individuel engagé. Nous sommes la dernière planète de notre système à être encore une planète élémentaire jusqu'au lycée, et nous devons devenir une université. Quand ça sera le cas, nous pourrons retrouver nos frères et sœurs qui sont déjà dans ce cycle-là. Une fois que nous passons notre grand baccalauréat de la résurrection, nous passons l'examen des consciences. Nous savons ce que nous sommes, la lumière individualisée. En tant que civilisation, nous rejoignons alors le cycle des planètes peuplées d'une humanité consciente. Nous poursuivons ainsi notre développement par le biais des explorations spatiales, par exemple. Attention, celles-ci n'ont rien à voir avec ce que nous connaissons aujourd'hui. Vous pouvez en avoir une belle description dans la dernière partie de la prophétie de Jean de Jérusalem, dans la Bible. Par conséquent, il y a bien des réunions identiques sur les autres sphères, mais à un autre niveau et également des réunions interuniversitaires. Chaque conseil planétaire a un représentant. Nous pouvons avoir une réunion planétaire pour notre école, pour intégrer par exemple la technologie de l'intelligence artificielle. Comme rien ne touche uniquement la Terre, mais toujours l'ensemble du système, nous allons faire intervenir un représentant de nos planètes voisines. Chacun aura son mot à dire et faire part de sa vision des choses. Pouvons-nous demander de l'aide ou participer à certaines réunions pour préparer un projet? Ou est-ce déjà divinement orchestré dès l'instant où nous avons l'idée du projet? L'idée du projet t'est venue parce que les réunions ont déjà eu lieu. Si tu te réveilles avec une super idée, elle ne provient pas de toi. Le consensus et tout ce qui a été réalisé conjointement, main dans la main, t'a permis de réceptionner cette idée et de mener à bien le projet. Prends donc la question à l'envers. Une fois que vous comprenez cela, tout paraît logique. Je pense à ce jeune homme qui a eu une idée très novatrice pour nettoyer les océans. Croyez-vous vraiment qu'il est arrivé sur la planète sans plan et qu'il a inventé son projet sur place? Évidemment que non. Tout cela a été préparé de longue date. Il s'est incarné dans la famille adéquate, puis à l'âge où il devait comprendre cela, il a inventé cette machine. C'est tout le processus préalable qui lui permet aujourd'hui de déployer ce projet. C'est pourquoi il est inutile de questionner les réunions par rapport à ce projet. puisque celui-ci provient lui-même de ces réunions. Les réunions montrent-elles le trajet le plus court ou anticipent-elles les loupés, les trébuchements, les moments où nous n'écoutons pas? Les réunions ne peuvent pas empêcher les loupés ou les rendez-vous manqués. Quotidiennement, il y a un nombre incalculable de réunions manquées sur la planète. Nous sommes des êtres opaques et nous ne parvenons pas toujours à mener à bien ce que nous sommes venus faire. Ce n'est pas parce que nous sommes nuls, mais parce que c'est compliqué une fois ici, car nous avons de grosses restrictions. Pour vous dire, les plus grands qui sont venus réaliser des missions ont échoué de nombreuses fois. Arthur, par exemple, avait ce projet d'unifier le christianisme avec les savoirs celtes, pour expliquer la présence de Dieu le Père et la Terre Mère, et arrêter les luttes. Son but était de les rassembler afin qu'ils accèdent à une plus grande vérité, mais cela s'est passé différemment. Les chevaliers de la table ronde n'ont pas été aussi droits dans ce qu'ils étaient censés manifester. Certains ont été récupérés par la gloire et l'ego. Nous ne pouvons pas leur en vouloir. Cela dépend énormément du contexte, et Dieu sait si le contexte est très compliqué suivant la période où vous vous incarnez. Si vous échouez, personne ne sera là pour vous le reprocher. L'objectif des réunions n'est pas de juger. Elles ne sont pas là pour préparer des embûches, mais pour réajuster en permanence les choses, et justement nous permettre, à chaque fois, de nous réaligner avec le but recherché. Il se peut néanmoins que des missions, des réunions, des projets avortent pour éviter qu'ils se retournent contre le but initial. Ils peuvent en effet parfois se révéler involutifs. Quand un gros projet ne va pas dans le sens premier, des réaménagements ont lieu pour qu'il y ait le moins de dégâts possible. Quand des projets menés par des grandes consciences avortent, cela passe toujours par les conseils planétaires supérieurs, la hiérarchie supérieure de notre Soleil, car cela touche vraiment toutes les planètes. Ces missions sont très encadrées, néanmoins, cela n'empêche pas les erreurs. Ils font aussi partie de l'expérience de la planète. Parfois, un des maîtres propose un nouveau projet pour rectifier le tir. Toute modification est soumise elle aussi aux grandes instances. Tout ce qui concerne les axes d'évolution de la planète est très réglementé. Rien n'est pris à la légère. On ne prévoit pas les chutes, on ne prévoit que les réajustements pour maintenir un certain axe de progression. Est-ce que tu nous crois en réunion, parfois même si nous n'en avons pas conscience? Je n'en ai pas le droit, et surtout, pas la nécessité de me rappeler de tout pour les raisons déjà évoquées. Parce que moi-même, je dois poursuivre ce que je suis venu faire ici, et ni mon mental, ni mes émotions ne doivent m'embrouiller. Cependant, j'ai le droit d'accéder à la configuration des choses, car j'ai le besoin de vous l'expliquer. Peut-on dire que lorsque nos projets se déroulent dans la fluidité, nous sommes dans le bon chemin? Oui. Cependant, quand les choses résistent, il est important de vérifier si elles résistent en soi ou si elles résistent à l'extérieur, et qu'à l'intérieur de soi, cela reste fluide. Certaines personnes pensent faire face à des résistances, mais en réalité, ce sont elles qui résistent, parce que les choses ne se déroulent pas comme elles le souhaiteraient. Elles croient que ça résiste, mais non, ce sont elles qui ne s'adaptent pas. Quand les choses sont vécues de l'intérieur et que tu as envie de faire aboutir un projet, c'est toi qui dois rester adaptable et fluide. Beaucoup de personnes ont des plans, mais font preuve de beaucoup de rigidité intérieure, qui, elle-même, va se refléter à l'extérieur. Des portes vont se fermer, ça ne va pas fonctionner comme elles le souhaitent. C'est toi, à la base, qui n'es pas fluide, qui ne s'adapte pas. Tu as une logique, un chemin, et tu ne vois pas l'éventail, la fluidité d'autres chemins, d'autres voies de réalisation. Qu'est-ce que cela signifie lorsque, depuis notre plus jeune âge, nous sommes attirés par les enseignements spirituels et que nous sommes passionnés par ce sujet? Ça veut dire que tu es là pour cela. Il s'agit de retrouver des connaissances qui viennent de plus profond de toi, car tu es là pour réintégrer ces savoirs que tu portes comme un écho. Tu ne fais pas que manger les enseignements, tu les réintègres. Tu t'en rappelles et ensuite tu les diffuses. Merci infiniment pour l'intérêt que vous portez à ce sujet très vaste. Au-delà des informations reçues, le plus important est de garder en vous le sentiment. C'est lui qui nous permet de vibrer dans notre vie. Je souhaite ainsi que vous conserviez la conviction intérieure de faire partie d'une vaste équipe, à pleine échelle, des petites équipes, des très grandes équipes, d'appartenir à un grand tout, à un immense plateau de jeu qui, en fait, vous a déjà totalement accueilli. Je vous souhaite de partir avec ce sentiment et que maintenant, vous ne soyez capable de nourrir aucun regret et que vous osiez. Les manquements surgissent quand les gens n'osent pas et c'est dommage. En sachant cela, je nourris l'espoir sincère que cela vous permettra de vous faire davantage confiance, d'oser, d'être vous, car en réalité, c'est tout ce que nous attendons. Que vous rayonnez ce que vous êtes. La lumière en expression. Issu d'un atelier conférence de mai 2023, L'Ulumineuse, retranscription réalisée par Sylvie Retailleau avec des modifications apportées par Lucille.